Quand je pense au Mexique, c'est bien du Mexique qu'on va parler. On doit immédiatement construire quelque chose dans sa tête. Et je crois que c'est une idée maîtresse qu'on peut suivre à longueur de découverte. Le Mexique est un pays à degrés, un pays à étages, un pays à climat très différent. Et je crois qu'involontairement, la première fois où j'ai vu le Mexique, car ce qui est curieux, c'est que j'ai vraiment vu le pays et non pas atterri comme on le fait d'habitude, non pas touché par un simple aéroport, ce pays, je l'ai vu de mes yeux à une distance de 200 km de la côte, du côté atlantique, bien sûr, puisque je venais de l'Europe. Et je crois que c'est ainsi qu'on peut le mieux s'imaginer la forme exacte du Mexique. Alors, vous voyez, on prend un bateau, c'était le cas, là, je suis monté sur un cargo passager il y a déjà 20 ans en Italie. Et j'ai longé toutes les côtes d'Espagne, et involontairement, à partir de Barcelone, on voit la statue de Christophe Colomb, on voit la maquette de la Santa Maria, et puis ensuite on arrive à Cadix, et on sait qu'on va vraiment quitter l'Europe. Pour la première fois, pour moi, c'était vouloir l'Amérique, la découvrir, et à 20 ans, bon, ben on rêve effectivement, le bateau avait tout à fait les dimensions qu'il fallait, tout le monde parlait espagnol, j'ai dû m'adapter très rapidement, et ça a mis 2 mois. On a mis 2 mois de l'Espagne au Mexique, en cabotant sur toutes les îles des Antilles, en descendant jusqu'au Venezuela. Et puis en arrivant sur cette côte que j'attendais depuis le départ du voyage, sur cette côte de Veracruz, ce golfe du Mexique, eh bien, je me suis levé très très tôt parce que je voulais absolument pas rater l'arrivée. On nous avait dit qu'on arrivait dans la fin de la nuit, mais enfin, personne n'était sûr de l'horaire. Et je me souviendrai toujours, je me suis mis tout à l'avant du bateau. Et à cette heure-là, on entend seulement des bruits. C'était les dauphins qui sautaient de vague en vague. Et quand on aborde comme ça une côte, c'est vrai qu'il y en a une multitude. Et tout à coup, juste avant le lever du soleil à l'horizon, il y a eu une sorte de lueur blanche, une pointe blanche. C'était le pic d'Orizaba, qui est le plus haut sommet du Mexique, et qui surgissait comme ça à l'horizon à 6000 mètres d'altitude. Et après quelques minutes, c'est carrément la plage et les cocotiers, ou plus exactement une longue ligne verte de cocotiers. On a l'impression qu'il n'y a que cela. Et finalement, le port de Veracruz. Ça, c'est vraiment ma première image du Mexique. Et pour la première fois dans ma tête, j'ai formé une pyramide, j'ai dessiné une pyramide avec cette pointe fantastique du pic d'Orizaba, qui est un dieu, qui est une divinité pour les précolombiens, et qui chapeaute complètement ce pays à étages. Je le répète, cette espèce de montée qui nous amène de la plage de Veracruz, où est arrivé Cortés, jusqu'à la capitale, l'ancienne Mexico, Tenochtitlan. Enfin, quand on aborde comme cela, on peut encore rêver de découvrir ces 400 km qui nous séparent de la capitale, comme a dû le faire à l'époque le premier découvreur et le premier conquérant.
Porque te quiero, china del alma, yo por ti muero. Y esto te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro.
A la leva, 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 y a la leva, leva iré. Y si no voy a la leva, de cobarde pasaré.
Cierto día,
el indito le decía que fresca está la mañana, que fresca está la mañana, indita del alma mía.
Y esto te digo porque te quiero, china del alma, yo por ti muero. Y esto te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro.
A la leva, 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 y a la leva, leva iré. Y si no voy a la leva, de cobarde pasaré.
L'autre jour, j'y pensais parce que je suis retourné exactement au même endroit et j'ai revécu Veracruz, parce que la ville de Veracruz est une ville tout à fait unique au Mexique. C'est la seule vraie ville tropicale. C'est le seul endroit où on a des musiques absolument folles. C'est le seul endroit aussi où on se couche si tard, où on a l'impression qu'on peut vivre jour et nuit, mais surtout la nuit. Et puis, il n'y a qu'une place. Il y a une grande place avec des colonnades comme ça, des voûtes. On a toujours l'impression qu'il fait 25-30 degrés, donc on est toujours très à l'aise, manches courtes, c'est plein de marins, les gens se baladent jusqu'à 2 heures du matin, grosso modo, et il y a environ 10 à 15 orchestres ambulants qui sont à moins de 100 mètres de vous, ce qui fait qu'on est dans une douce cacophonie, comme ça. Et ce climat de Veracruz, il est resté très vrai depuis le XVIe siècle, certainement, parce que c'était la seule ville de transition. Mais on vient de la décrire, en fait, en allant au Mexique. Mais il faut penser que c'était le seul pôle pour retourner en Europe. Il y a eu des milliers de bateaux qui sont partis de Veracruz. Toutes les richesses du continent, de cette partie du continent américain, ont passé par Veracruz. Et puis l'autre jour, comme je faisais une tournée, je suis retourné juste à Jalapa, qui est un peu plus au nord, et en même temps à El Tajín, qui est un site archéologique avec une superbe pyramide à 365 niches, qui est très connue parce qu'elle rappelle le calendrier solaire. Et tout près, j'ai trouvé un groupe d'Indiens pendant une fête, des indigènes de la côte, des Totonacs, qui ont repris sans avertissement, je veux dire par là que c'est une sorte de confrérie, comme ça, une fête qu'ils font de temps en temps, mais de façon très privée. En principe, il n'y a jamais de tourisme dans ce tout petit village. Et là, j'étais effectivement à quelques kilomètres de Papantla, et j'étais surpris d'arriver sur une petite place complètement vide, avec une église tout à fait commune, et un mât, un énorme mât de 40 mètres de hauteur. Donc un tronc d'arbre extrêmement bien choisi, et puis des cordes autour qui servaient de marche, et puis en haut une sorte de plateau, un essieu en même temps, une sorte de plateau, on pourrait dire un disque 33 tours posé au sommet d'un mât de 40 mètres. Et moins d'une demi-heure après mon arrivée, la fête commençait, mais de façon tout à fait anodine. Les gens se sont regroupés petit à petit, mais surtout cinq personnes, les cinq danseurs en question. Et le premier est monté sur le sommet du mât, a placé des cordes, il les a mises dans l'axe, il a fait un décompte extrêmement précis. Et à partir de ce moyeu, de ce centre placé au sommet, il a invité ses quatre autres acolytes qui sont montés avec des costumes. Lui avait un tambour et une flûte, il a commencé à se placer sur le sommet du mât, il s'est levé, il a dansé, il a fait un peu de musique, enfin il a joué, il a commencé à danser, et il a fait une salutation au soleil, et ses quatre camarades se sont assis autour du moyeu, sur une sorte de cadre qui était complètement dans le vide, se sont attachés à la ceinture par les quatre cordes qui venaient d'être enroulées, et se sont jetés dans le vide une fois qu'il avait terminé sa danse au soleil, qui est très 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 impressionnante. Danser sur un disque 33 tours à 40 mètres de hauteur en claquant les talons, ça n'a rien d'évident, mais c'est vrai que c'est un des spectacles les plus fantastiques du Mexique. Du danseur, et tout à coup il se met uniquement à jouer, il arrête de danser, les quatre se jettent dans le vide, tête en arrière, les cordes commencent à se dévider, parce qu'obligatoirement comme elles étaient enroulées et qu'ils commencent à tourner, elles se dévident petit à petit, et ils forment dans le ciel une forme étrange, effectivement, qu'on lit immédiatement comme une pyramide mouvante. Alors il y a le centre, fantastique. Je vais l'appeler tout de suite le soleil de midi parce que j'en ai envie et on va voir que c'est vrai. Il y a ce sommet absolu avec ce cinquième personnage en déséquilibre ou en équilibre instable, en tout cas, avec sa musique, enfin toute cette énergie qu'il dépense, et les quatre autres qui silencieusement, comme des oiseaux, se laissent descendre en prenant petit à petit la forme des arêtes de notre pyramide. Et ils font ainsi un nombre de tours X et juste avant de toucher le sol, ils se redressent. Et on a l'impression qu'ils savent exactement à quel moment ils doivent se retourner. Parce que on a l'impression que c'est au centimètre près. Personne ne s'en occupe, ils font ça dans leur coin. Mais dans notre tête se grave involontairement cette image pyramidale très précise. Donc on a un centre, qui est le centre où a été planté le mât. Et puis le mât lui-même, c'est l'axis mundi, c'est l'axe du monde. Au sommet, on a vraiment le zénith absolu, les quatre arêtes qui sont descendues et qu'on a encore dans notre esprit, parce que la corde naturellement s'amplifie, donc la largeur s'amplifie aussi. Et puis alors, ce qui est fantastique, c'est tout à coup, on se dit, mais il doit bien y avoir une signification au nombre de tours, il doit bien y avoir une raison de faire ce genre de danse. Et puis, rétrospectivement, on apprend, en interrogeant les gens, qu'ils ont fait 13 tours, et que 13 fois 4, ça fait tout à coup 52. Là, ça se complique, je suis d'accord. Mais c'est la longueur d'un siècle précolombien. Donc, on vient de voir, dans l'espace, une forme architecturale, une idée du monde, une idée cosmique du monde, et en même temps, le temps. C'est-à-dire le temps et l'espace que les précolombiens avaient conçu. Alors ça existe aujourd'hui, c'est ça qui est fabuleux. C'est ça le Mexique. C'est ce contraste violent entre une chose qui existe certainement depuis 1000 ans ou 2000 ans, et puis l'actualité où les Espagnols, les chrétiens n'y ont vu que du feu. Ils ont vu un jeu avec un mât de cocagne, et puis des gens qui s'amusent à danser. Pas du tout. Alors ça, c'est encore un autre fil conducteur. On vient de voir ce volcan de tout à l'heure, c'était la forme du Mexique à étages, et là on vient tout à coup de découper le Mexique en 13 tours, en 13 étages aussi, avec une forme bien précise où on pourra mettre tous les composants, tous les éléments, toute la symbolique du pays dans une seule danse, dans un seul jeu. Et on va voir que ça fonctionne partout. On va se balader dans tout le Mexique, et dans tout le Mexique, il faudra qu'on traîne notre pyramide sur notre dos afin de voir que la conception entière de leur monde est restée semblable depuis 2000 ans. En même temps, il y a une forme extrêmement sobre dans l'espace et dans le temps. Tout à coup, on a envie de questionner, on a envie de voir ce que ces gens ont encore dans le cerveau. Et ça, c'est le Mexicain d'aujourd'hui. C'est de savoir si l'indigène, c'est surtout à lui que je m'adresse, parce qu'il parle encore des langues indigènes, il a encore un esprit d'indigène, il a traversé toute la colonie et tout le temps de hispanique sans avoir été trop touché, même s'il se sent chrétien ou catholique. Alors, on commence à s'intéresser à ces gens-là, puis on commence à vivre chez eux. On s'installe dans un village et on commence à creuser. Alors ça, c'est fabuleux parce que on vient de dessiner tout à l'heure une forme dans l'espace. Et puis on s'aperçoit que lorsque les gens se mettent à parler, ils ont eux-mêmes une autre vision que la nôtre. Si je vous dis la Terre est ronde, si je vous parle des éléments, si on parle de chimie, si on parle de composition des choses, on est très précis. L'indigène, lui, il continue à avoir ses formes à lui et ses systèmes à lui. Alors ça, c'est un monde qui nous est complètement étranger. Mais avec des exemples extrêmement simples, je crois qu'on peut petit à petit se rendre compte que presque toute l'Amérique indienne, toute l'Amérique latine, le Mexique plus que tout autre, ont, dans leur modernité, un tas d'éléments qui ne correspondent pas du tout à notre façon de voir le modernisme ou l'actualité. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas comme nous, ne vivent pas comme nous et surtout ne meurent pas comme nous. Alors ça, ce sont des choses énormes, philosophiquement parlant, mais c'est peut-être le côté le plus passionnant. Enfin, c'est ce qui, moi, m'a fasciné pendant 20 ans, c'est de me rendre compte qu'involontairement, en 20 ans, j'étais devenu un peu indien et que j'avais complètement changé ma vision des choses et surtout changé ma notion de l'avenir, du passé, et que tout à coup, j'avais découvert un présent qui n'était plus du tout celui que j'avais l'habitude d'avoir en Europe. Alors bon, c'est un peu délicat d'en parler comme ça au départ d'une découverte, mais l'Indien, dans sa simplicité, c'est ça qu'il essaye de transmettre. Et quand il vous dit, bon, ben maintenant il fait nuit, parce que ce soir c'est vrai, on écoute la radio, on est là, on sait qu'il fait nuit dehors, on a trouvé tout à fait naturel, on a seulement regardé sa montre. L'indigène, il connaît tout simplement en sentant les choses. Donc il est beaucoup plus proche de nous, de la nature. Et la forme qu'on a donnée tout à l'heure, c'est vraiment la base de quelque chose qui va, pour lui, lui permettre de vivre, tout simplement, au jour le jour. Parce que le Mexique, c'est d'abord un pays agricole, même si on parlera sûrement de cette ville fantastique de 18 millions d'habitants, mais c'est pas la première chose qui nous touche au Mexique. Ce qui nous touche, c'est d'abord ce côté campagne, ce côté indigène. Alors l'indigène, il va vous dire, bon, ben, le soleil est une chose. Le soleil, j'en ai besoin. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de terre. Et puis, on est dans un pays où ça bouge beaucoup, il y a des volcans, etc. On s'aperçoit que simplement en disant cela, il a déjà posé tous les ingrédients de sa vie. L'air, le feu, la terre. Et puis, l'eau, bien sûr. Donc, notre brave petit Mexicain, il a encore dans son cerveau une alchimie que nous, on a perdue à peu près à la hauteur du Moyen-Âge. Je crois que si on n'y pense pas constamment, même en décrivant des choses simples, on rate la moitié de la connaissance du Mexique. Et je crois que c'est le cas de tous les gens qui ont envie d'y aller ou qui traversent ce pays en se baladant. Bah, on peut être assis à côté d'un indigène qui vous raconte des choses simples. Lui pense à une chose et vous à une autre. Et on a beaucoup de peine à se comprendre. Malgré les mots, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans le cerveau de l'autre, même si on parle bien l'espagnol, même si lui parle bien l'espagnol, parce qu'il parle souvent une langue indigène. Alors, là, je ne raconte pas le Mexique, je dis simplement ce qui, moi, m'a coûté au départ. On a l'impression d'arriver en comprenant tout, et depuis 20 ans, j'ai l'impression que de plus en plus, je dois être à l'écoute de l'autre, et que plus j'avance, moins j'arrive à me trouver et à me savoir, puisque je dois être différent pour les saisir. Alors ce Mexique-là, bah, c'est justement dans les fêtes, c'est justement dans les endroits les plus simples qu'il nous parle le mieux. La fête de tout à l'heure, bah, c'est intéressant effectivement de retrouver nos danseurs et puis de discuter, de rester, de vivre avec eux. Il y en a un qui vit dans sa ferme et tous les 3 mois ou 4 mois, il ira faire une fois son mât avec ses hommes volants. Alors lui est capable de nous expliquer petit à petit ce qu'il a voulu représenter. J'insiste un peu sur cette pyramide, mais si l'Indien d'aujourd'hui est encore capable d'en parler, bah, devant un monument tout à fait logique du passé, on va tout à coup pouvoir découvrir exactement les mêmes critères de lecture. Parce que notre problème actuel, lorsqu'on voyage vers d'autres civilisations, c'est la lecture de cette autre civilisation, c'est le regard de l'autre qui n'est pas le nôtre, effectivement. Alors mon indigène, il va vous dire, bah, écoutez... Moi, une année, elle se découpe comme ça. J'ai 260 jours, j'ai 13 mois de 20 jours. Aujourd'hui, on est le jour 4 lapins, demain, etc. Il a un langage déjà sur le plan espace et temps qui est totalement différent. Il connaît aussi nos dates. Il sait que ce soir, on est mercredi. Il sait qu'on est au mois de mars. Mais en même temps, il vit sur une autre planète avec un autre calendrier. Alors, au départ, ça paraît étrange. Mais petit à petit, on va voir que ces deux mondes peuvent vivre l'un à côté de l'autre, être juxtaposés sans aucune difficulté. Alors, à part ça, tout à coup, on va voir aussi que dans la vie courante, que ce soit en politique, que ce soit en religion, ben, cette vision, elle est également double. Alors, ça crée des frictions absolument fabuleuses, voire des révolutions, à la limite, des problèmes messianiques, enfin, tout ce qui fait le bouleversement d'une Amérique latine qu'on ne comprend pas vu de loin, bah, ils paraissent tout à fait naturels quand on y est. Je suis resté quelque temps dans ce petit village de Coyoutla où on allait fêter la Saint-André. Puis je me suis rendu compte qu'en créant une amitié avec un paysan, attention, c'était pas n'importe quel paysan. Hein. Quand vous voyez un paysan, il faut peut-être croire que parce que vous l'avez remarqué, il a quelque chose de plus que les autres. Quand je dis quelque chose de plus, c'est que tout à coup, il a une charge. Dans le village, il a été désigné comme étant porteur de pouvoir. Pas forcément sorcier, ça on en parlera sûrement de la sorcellerie, c'est un aspect fascinant, mais simplement quelqu'un qui a la possibilité, d'abord financière bien sûr, mais aussi mentale, d'assumer une charge religieuse souvent, de faire partie d'une confrérie. Alors mon paysan, bah, il était très modeste, très simple, il disait « bon, mais il faut que je m'occupe de Saint-André ». Alors, viens, on va s'occuper de telle chose. Et on partait de la maison, et il allait chercher le saint ou des habits, et puis on le déplaçait, on allait chercher les autres de la confrérie, on se retrouvait au même endroit. Et chaque fois qu'il y avait un rituel, on remarquait que tout à coup, une autre pyramide se mettait en place. C'était une pyramide de pouvoir. C'est qu'il y avait un chef et des sous-chefs, si vous voulez. Et c'est vrai que ça forme obligatoirement une pyramide. Alors, ce système de pouvoir, c'est assez fabuleux parce qu'on se rend compte qu'avec ça, on peut tenir tout un village, mais sans autorité telle qu'on les connaît aujourd'hui. Et les fêtes, bon, elles se déroulent avec ces charges, c'est vrai. Il y a des problèmes de puissance, il y a ce côté magique, il y a ce côté religieux. Ça, je crois pas qu'on va le décrire maintenant, parce que je préférais simplement vous montrer que à partir d'une seule personne, on a tout à coup toute une chaîne qui se dévide et qui nous permet de mieux comprendre aussi comment se déplacent ces gens-là dans leur espace. Alors, c'était le cas avec ce paysan qui me dit « Bon, ben moi, je me suis occupé de Saint-André, on a fait la fête, tu as remarqué qu'on s'est occupé de recharger le saint pour une année. » Donc, il y a une question aussi de... On a l'impression que l'énergie doit toujours être mise en place, parce que le petit jeu de tout à l'heure avec nos saints bons hommes, c'était ça, en fait. C'était un problème énergétique qui remettait en place, avec 13 degrés, la pyramide spatiale, qui remettait en place le soleil à midi, qui redonnait une sorte de souffle au monde. Et ça, on va voir que c'est constant, et tout se décharge. Nous-mêmes, on se décharge. Je suis en train de parler, je suis en train de perdre de l'énergie, vous m'écoutez, vous en perdez aussi, le temps passe, donc vous êtes plus proche de votre mort. Les Indiens vivent comme ça constamment. Chaque jour qui passe est un jour de plus, mais un jour de plus, c'est un jour nouveau qui est identique au jour précédent. Donc en même temps, on a l'impression qu'on patine, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de tourner sur soi-même, et le monde entier fait ça. Bah, ils ont un peu raison. Quand on étudie un peu comment fonctionne aujourd'hui le cosmos, on se rend compte que c'est pas parce que notre soleil dans 5 milliards d'années il sera fini, que le monde sera fini dans le sens cosmique. Alors ça, il l'avait très bien compris, ce problème des énergies en transformation constante. Alors, un simple paysan, il sent ça, il a ça dans le sang, par essence. Il est plus grand prêtre, il est plus grand chef, c'est plus lui qui construit la pyramide du coin, mais ces choses-là, il les connaît parfaitement. Alors, je sais pas, je pourrais simplement vous montrer comment ce paysan fonctionnait. Mon petit Juan, il avait une fonction très curieuse. Je ne l'ai jamais vu courir. Mais pour un Indien, c'est normal de ne pas courir. Ce serait dépenser de l'énergie pour rien. Juan, il ne parle jamais comme moi. Il est beaucoup plus lent. Quand il dit trois mots, il n'y en a pas quatre. C'est aussi un fait de savoir ne pas dépenser de l'énergie pour rien. Il ne chante jamais en dehors des fêtes. Il ne se saoule pas en dehors des fêtes. Et en même temps, tout son travail quotidien est extrêmement réglé. Il ne va pas faire quelque chose hors saison, par exemple. Ou quand il a une charge particulière, il ne va pas simplement jouer, s'amuser. Ça n'existe pas. On ne va pas rire, être joyeux pour rien. Là, je ne comprends plus. Mais en fait, on vient de saisir une chose tout à fait évidente en rapport avec notre espace et notre temps de tout à l'heure, c'est que l'indigène lui-même s'économise. On a affaire à une véritable économie. On a déjà vu certains plans se révéler, mais quand je dis économie, ça veut dire que ces gens-là savent pertinemment que toute énergie est en danger de se consumer. Donc moins je me consume, mieux je me porte, et plus longtemps je me porte. Donc je vais durer, simplement. C'est un tout petit détail, mais je me rappelle d'un fait, c'est que ce même indigène avait l'intention de monter à Mexico. Je me suis dit, tiens, ça, par rapport à son idée d'énergie ou de dépense d'énergie, c'est absurde de partir de la côte et de faire 450 km en oubliant son climat tropical à 30 degrés, on est sous les palmiers, il ne faut pas l'oublier, puis de monter à 2300 mètres à Mexico pour une autre fête. Mais en fait, c'était la fête de Guadalupe. La fête de Guadalupe, c'est la plus grande fête du Mexique indien. C'est celle qui a lieu chaque année le 12 décembre. Alors, parler de Guadalupe, c'est parler aussi de quelque chose qui est venu se coller sur autre chose. C'est ce que j'appelle toujours le syncrétisme. C'est un mot qui est un peu complexe en soi, mais c'est simplement l'ancienne religion et la nouvelle religion.
Mano kosteka no shokoyotsi, mano kosteka no pitelontsi, ma kochi kochi pitenzi, mano kosteka pitelontsi, mano kosteka no shokoyotsi.
Guadalupe, c'est un monde pour le Mexique. N'importe quel Mexicain a un cœur et dans son cœur, il y a toujours Guadalupe. Parce que Guadalupe, c'est la mère. C'est vraiment sa maman, au sens large du terme. C'est la Vierge de toutes les Amériques, sur le plan religieux. On n'a pas besoin de Jean-Paul II pour qu'elle soit vraiment la Vierge principale. La première fois que je suis allé voir la Vierge de Guadeloupe, c'était également en 68, puisque j'étais arrivé au mois d'octobre pratiquement comme Christophe Colomb. Au mois de décembre, j'étais invité par un ami qui me dit « Tiens, tu veux voir le plus grand pèlerinage du Mexique, on va à Guadeloupe. » Et il m'a invité à 10h du soir, le 11 décembre, à y aller en me disant « Tu prends 2 ou 3 ponchos, on risque d'y rester jusqu'à demain soir. » Ça fait un peu long, d'autant quand on part comme... Mettons que ce soir, là, à la fin de l'émission, on part gentiment à 20 km à l'extérieur de Genève, et puis on passe toute la nuit avec 50 à 100 000 personnes qui dorment un peu partout, sur le parvis, dans les escaliers, sur la colline, des feux, on mange les tortillas, on prépare la soupe, enfin, c'est un immense caravansérail. Et puis toute la nuit, il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent la saluer, surtout aux alentours de minuit, qui rentrent dans la basilique. À l'époque, c'était encore la vieille basilique qui s'enfonçait doucement dans le sol de Mexico. Et d'ailleurs, on a dû l'abandonner pour construire un nouveau cirque à côté. Je dis cirque parce qu'elle a une superbe forme comment dire, une tente énorme qui peut contenir 30 000 personnes. C'est donné l'importance du lieu de pèlerinage. Mais enfin, l'ancienne basilique qui avait un côté baroque, elle penchait dangereusement, c'est vrai, mais elle était assez fonctionnelle. On rentrait par une porte centrale. De temps en temps, sous la pression des gens, les deux autres éclataient. Ça, c'est vrai. Ça m'est arrivé ce soir-là, d'ailleurs. Parce qu'il y a toujours une centaine de morts, hein, chaque nuit de pèlerinage. On arrivait au fond, on déposait ses offrandes, on pouvait faire un concert. Il y a eu des concerts pop le même soir, enfin, que des orchestres ou des danseurs qui faisaient un pas en avant, un pas en arrière avec leurs coquilles aux chevilles. Et ensuite, on était débarrassé, si j'ose dire, de côté. Et au fond, on avait simplement cette image de Guadalupe, qui est une image simplement peinte sur du jute. C'est une huile, j'oserais dire, du XVIe siècle, puisqu'elle est apparue en 1531, et cette Vierge de Guadeloupe est une Vierge colorée. Je veux dire par là qu'elle ressemble à une très belle Vierge espagnole, mais elle a une peau un tout petit peu plus foncée, ce qui fait qu'elle est indigène. Alors, on sent dans ces milliers de personnes une ferveur absolument fantastique. Et quand je suis arrivé en 68, on mettait encore des petites statuettes ou des petits symboles particuliers sous l'autel, qui était couvert de fleurs de la région de Veracruz, et mon petit copain paysan était monté avec son tronc d'arbre, avec à l'intérieur des orchidées, exprès pour les offrir à la Vierge, et il a passé toute la nuit, il a dormi là, enfin ça c'était quelques temps plus tard, mais enfin, j'ai été 14 fois à voir cette Vierge de Guadeloupe le 12 décembre, donc je commence à la connaître un peu, et il a posé ça sur l'autel, et puis il a passé la nuit comme tout le monde, et à 6 heures du matin, il s'est éclaté complètement, puisqu'il est remonté sur son mât qu'on avait volontairement planté en plein milieu de la place, donc à Mexico City, dans une ville de 18 millions d'habitants, ils avaient pris leur mât de 40 mètres, ils étaient les 5 là-dessus, et ils ont recommencé leur rituel qu'ils faisaient normalement sur la côte, uniquement pour cette mer divine. Bon, c'est fort comme image. Et surtout quand tout à coup, à 6 heures du matin, au moment où le soleil apparaît, vous avez 40, 50, 100 groupes qui se mettent en même temps à prendre leur place au milieu du parvis et puis des dizaines de milliers de personnes qui sont là autour, qui font des groupes, qui écoutent, qui voient ce qui se passe. Alors on a l'impression d'un immense truc folklorique. Et je dis truc et folklorique volontairement. Or tout cela c'est de la religion, j'entends ça c'est du précolombien. Ça c'est l'énergie qu'on développe au maximum, c'est la fête, c'est le carnaval, c'est la dépense volontaire d'énergie pour quelque chose, pour remonter la pile énergétique qu'est la Vierge elle-même. Alors, quand on sait que la Vierge, en 1531, a remplacé un temple précolombien d'une déesse qui était au bout du lac, ça c'est difficile hein, de penser que Mexico était un fantastique lac, une immense Venise, et qu'au bout des digues, au bout de la grande Venise, dans la lagune, tout au fond de la lagune, du côté de Torcello, eh bien, il y avait effectivement un tout petit sanctuaire qui était offert là, enfin qui était dédié à cette déesse mère qui à l'époque s'appelait Tonantzin. C'était la mère de tous les dieux aztèques à qui on offrait systématiquement des enfants en sacrifice. Alors, ce qui est fabuleux, c'est de voir qu'une fois de plus, tout se tient. Mais si on ne démonte pas le mythe, bah, cette Vierge de Guadeloupe, ça paraît être une immense foire de fin de saison. Là, au 12 décembre, on se retrouve tous là, tout le Mexique est là, parce qu'il y a des gens, des indigènes et des métis et même des blancs de tout le Mexique qui viennent là. C'est une Vierge qui nous paraît catholique au premier degré. Et tout à coup, quand on commence à la découper, on remarque effectivement qu'elle est tout autre chose et qu'elle est surtout quelqu'un d'autre. Alors ça, je pense que simplement découvrir un mythe double comme ça, c'est aussi découvrir que le Mexique est sans arrêt un jeu de miroir fantastique.
Si tali, si tali, si tali, no.
Alors, la première personne qui m'a vraiment bien parlé de Guadeloupe, c'est un de mes futurs professeurs, enfin, un ethnologue qui était en même temps archéologue, et qui est un garçon qui m'a simplement décrit cette histoire de façon extrêmement simple. C'est une légende, hein, l'histoire de la mère divine. Alors là, on est obligé de remonter à l'époque des Aztèques. Et les Aztèques, ils avaient une religion très, très difficile. Et ils prétendaient qu'il y avait une mère de tous les dieux qui s'appelait Coatlicue. Et Coatlicue, c'est la mère divine, c'est vrai, c'est celle qui a une jupe de serpent. Elle est épouvantable, elle porte un collier qui est fait de mains qui sont coupées. Il y a des cœurs humains, et puis en bas, une grosse tête de mort. Et puis, elle a la tête tranchée avec deux serpents à la place, l'entendement mâle, l'entendement femelle. Elle a des crocs épouvantables, des griffes, enfin, elle creuse carrément la terre avec des serres et des pattes assez puissantes. Enfin, à voir, c'est pas l'image la plus sympathique du musée d'anthropologie. C'est une énorme statue qui la représente aujourd'hui. Mais son histoire est belle. Parce que dans la tête d'un Mexicain, Coatlicue, c'est la mère divine qui avait déjà mis au monde les 400 planètes qu'on voit dans le ciel, ou les étoiles si vous préférez, les 400 lapins, ils les appellent les petits lapins. Et puis la lune. La lune qui s'appelle Coyolxauqui, celle au grelot d'or. Alors, elle avait déjà enfanté pas mal de monde. Et puis tout à coup, elle se trouvait au sommet de sa colline. Et sa colline, ça s'appelle la montagne du serpent, ce qui est un peu normal quand on connaît la femme à la jupe de serpent. Alors quand je dis colline, immédiatement pour un Mexicain, il pense sommet, il pense à mon premier sommet que j'ai vu depuis la mer, et il se dit, ça y est, c'est déjà une pyramide. Tous les sommets sont des formes pyramidales. Alors elle est au sommet de sa colline, elle balaye. Balayer, ça veut dire faire pénitence. Chaque fois qu'on pêche, à l'époque précolombienne, quand on a fait un péché, on doit faire pénitence, et l'idée, c'est le balayage. Alors elle balaye. Et puis, comme elle fait pénitence, tout à coup, elle voit quelque chose qui tombe du ciel. Donc, c'est une indienne, en fait. Hein. Elle voit tomber une boule de plume qui descend doucement. Une petite boule de plume qui vient se poser à côté d'elle. Alors, pour les précolombiens, si vous leur dites une statue en or ou vous leur dites un décor fait avec des plumes, ils choisissent les plumes. Ils trouvent que la plume, ça a une valeur incroyable. Les petites plumes de perroquet, de colibri, les grandes plumes de quetzal, ça, c'est la richesse absolue. C'est le plus beau décor qu'on puisse aller chercher dans les zones tropicales. Alors, elle regarde cette petite boule de plume, et puis elle va pas la laisser perdre, alors elle la prend, puis elle la glisse dans sa grande ceinture d'indienne. Vous savez, les indiennes, elles ont des ceintures extrêmement larges, puis une grande jupe comme ça. Elle la glisse à l'intérieur, puis naturellement, au bout de quelques temps, au bout de quelques semaines, elle tombe enceinte. De son dernier enfant, qui est le grand dieu tribal des Aztèques, qui s'appelle Huitzilopochtli, le colibri de gauche. Alors, on ne va pas en parler maintenant du colibri de gauche, on pourra en parler une autre fois, mais simplement que vous sachiez que c'est déjà la représentation de l'énergie du soleil sur Terre. C'est le grand dieu des guerriers aztèques. C'est celui qui est au sommet de leur pyramide de pouvoir et religieuse. Alors, Suits il opposti lui dans son ventre. Et Coyol Shawki décide de tuer sa propre mère, parce qu'elle est jalouse, on connaît pas le papa, hein, vous ferez remarquer. Donc c'est la première fois que cette déesse va mettre au monde quelqu'un sans qu'on sache, sans reconnaissance de paternité. Alors, les 400 lapins et la déesse de la lune décident de l'assassiner. Et ensemble, ils montent cette colline pour assassiner leur propre mère. Et à l'intérieur du ventre, Huitzilopochtli lui dit « N'aie pas peur, s'il faut, je vais naître instantanément pour te défendre, je vais naître tout habillé, tout armé, et je vais te venger, et tu n'auras pas de problème. » Effectivement, au moment où la déesse de la lune, enfin cette fille lunaire, arrive sur le sommet de la pyramide, Huitzilopochtli sort, il prend sa sœur, il la coupe en petits morceaux, il tranche la tête et les membres, et il la jette en bas de la colline. Alors, c'est une idée très sympathique parce que la même que celle du départ. On a recréé une forme pyramidale et au sommet de cette pyramide, on vient de faire le premier sacrifice. Alors ça, c'est l'idée des Aztèques. Le sacrifice était une chose terrible. Donc cette mère des dieux, elle est défendue par le soleil, la puissance absolue, qui a été capable de tuer sa propre sœur et de la jeter en bas des marches. Alors ce qui est curieux, c'est qu'il y a quelques années, ça c'est une légende que je connais depuis longtemps, on a retrouvé la lune sous le trottoir de la rue Guatemala à Mexico. Et on a retrouvé un monolithe aussi grand que le soleil aztèque, vous savez, cet énorme calendrier aztèque qui est très connu dans le musée. Et sur cette pierre, il y a une déesse qui est la lune, coupée en petits morceaux. Et puis au sommet du temple, où il y avait la pyramide à l'arrivée de Cortés, eh bien, il y avait effectivement ce temple de Huitzilopochtli, où des dizaines, des centaines, des milliers de guerriers et de sacrifiés sont tombés sous le couteau d'obsidienne et de silex. Des sacrificateurs aztèques. Ben ça, ce sera le thème de la prochaine fois. Peut-être on pourrait essayer de parler un peu de ces sacrifices humains et de cette mentalité qui fonctionne aussi sur cette énergie du sang, la boisson des dieux qui descend vers la terre, et cette énergie solide, cette nourriture du dieu solaire qu'on monte vers le ciel en offrant les cœurs des sacrifiés. Solide, liquide, nourriture des dieux.
Sangwa tlatlanti walaya kamang wechi sawili kamang wechi sawili ipai wintonal chintli tekine melawa yotiko nashilike yotiko nashilike yewa intonal chintli tekine melawa yotiko nashilike Ma wisti klato ani esik, oti mitson kawili komu bandera. Oti mitson kawili komu bandera, kositlatlinkineki, sanse jarra mezkalkineki. Kositlatlinkineki, Ikamosi iwamosi garrito Tekine melawak santipakinti moyotlalia Santipakinti moyotlalia Ikanochi tokniwa Siwanatsi Makasines tzatzakwili nechalitas nomona Itlakwali momona tzintamalayol kuitlanes momona Siwanatsi makasines tzatzakwili nechalitas nomonta Itlakwali momonta iskwapotok momonta Siwanatsi, makasines tzatzakwili, nechalitas nomonta. Itlakwali momonta, iskuatlapetlanal momonta. Masanikamontlami, yewain, ikatipakinti moyotlalia. Mawisti klatoani ye, sanamo westi kate. Oala kein kokone, makaipa mokwala. Oala kein kokone, otimi omitson tlapaloko. Yalwai wit plakatka sangwa tlatlanti walaya. Sangwa tlatlanti walaya kamang wetsi sa witli. Tekine melawak santi pakin timoyo tlalia. Santi pakin timoyo tlalia kamang wetsi singa witli. Mawistik señor Helmer, santi pakinti moyo tlalia. Santi pakinti moyo tlalia, kaman wechi sawili. Yalwa iwik plakatka, santi wahtlatlanti, usang wahtlatlanti walaya. Tekine melawak, yo tonasike intonal tzintli. Wichakati, makashine satsakli. Makasih nesta tak mi, nesta litas nomona, tak wajib.